Donc, Marc, chapitre 10. Alors, si vous voulez prendre vos Bibles. Marc, chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 35. 35 jusqu'à 45. Donc, Marc 10, 35 à 45. Je lis, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?»« Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous invoquons bien sûr l'aide du Seigneur pour comprendre l'enseignement, la pensée de Jésus. Nous sommes toujours dans cette série d'études. Nous avons commencé au début de l'Évangile avec... voir Jésus-Christ selon l'évangile de Marc. Et ce matin, eh bien, nous allons voir Jésus qui est le modèle d'un grand. Un modèle pour les disciples, le modèle d'un grand. S'il emploie le mot, il dit les grands parmi les nations, les chefs parmi les nations. Il dit grand parmi les nations, ça veut dire une chose, grand chez moi, ça veut dire autre chose. En fait, c'est ça que Jésus est en train de dire. Et en fait, le verset 45, le début du verset 45, Jésus dit, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Et là, vous voyez tout de suite que c'est très différent de du monde dans lequel on vit. Cet esprit, Jésus qui est le Seigneur, il dit, « Je suis venu pour servir et non pour être servi. » Ce que nous avons vu dans ces derniers chapitres, depuis le chapitre 8, et puis donc le chapitre 9 et ce chapitre 10, eh bien, il y a une tension entre ce que Jésus est venu être. Jésus est venu pour être le serviteur, celui qui donne sa vie, celui qui meurt pour le péché des hommes. Et puis, d'autre part, nous avons ces disciples qui ont toujours cette idée d'un Messie qui va être glorieux, qui va être régné. Et donc, entre la pensée que Jésus a pour sa vie, son ministère, puis la pensée que les disciples ont, il y a un décalage total. En fait, la grande question que Jésus pose au chapitre 8... c'est cette question, mais qui suis-je? Et il posera aux disciples de deux manières. Il dira aux disciples, il dit, qui dit-on que je suis? Qui suis-je au dire des hommes? au verset 27 du chapitre 8. Et il dira aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et ce qui est important, c'est « Qui est-il pour moi ?» Hein, ça, c'est la grande question. Et en fonction de qui il est pour moi, eh bien, je vivrai autrement. Je vivrai d'une manière ou d'une autre. Si je dis que Jésus n'est qu'un prophète, un bon prophète, mais il est passé seulement, eh bien, j'ai du respect pour lui, mais c'est tout, ça ne change pas ma vie. Si Jésus est un révolutionnaire d'une certaine époque et qu'il avait des bonnes idées, mais c'était l'échec, alors bon, c'est un personnage de l'histoire. Si Jésus est pour moi quelqu'un qui a un maître, qui a essayé d'enseigner quelque chose de vrai, mais finalement notre monde ne l'a pas reçu, ne l'a pas suivi, et malheureusement, je vais avoir de la pitié pour lui, mais mon monde continue. Et donc, c'est important. Et la question, c'est que les disciples avaient une idée de lui. Les disciples le voyaient comme le roi promis, le roi glorieux qui allait venir, et qui allait régner, rétablir le royaume de David. Et donc, eux, ils pensaient, ils interprétaient tout de cette manière-là. Tandis que Jésus, eh bien, il se voyait comme il avait été envoyé, le serviteur, celui qui était là pour tendre les mains, pour relever celui qui ne pouvait pas marcher, donner la vue à celui qui ne pouvait pas voir, apporter la consolation la veuve qui avait perdu son fils unique. Il était là pour relever, pour apporter, pour donner, pas pour recevoir. Et donc, il y a un décalage. Et même de nos jours, eh bien, pratiquement parlant, eh bien, ce que je pense de Jésus, la manière dont je conçois Jésus, eh bien, fera une différence dans la manière dont je vais me comporter vis-à-vis de lui et vis-à-vis du monde qui m'entoure. Bien sûr, les disciples diront, « Mais qui dites-vous que je suis ?» Ils répondront, « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et oui, mais eux, quand ils disaient, « Le Christ, le Fils du Dieu vivant », même si ça avait été révélé par Dieu, eux, dans leur interprétation, c'est que tu vas être le roi. Tandis que Jésus dit, oui, vous avez raison de dire que je suis le Christ. Mais le Christ, ça veut dire que je suis celui qui vient pour mourir, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est donc même en reconnaissant que Jésus est le Christ, on peut voir les choses de manière différente. Hein, donc ce matin même, il se peut que même ici, parmi nous, on voit Christ de manière différente. Et ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on pense, mais ce que Dieu dit. Hein, c'est ça qui importe. Et là où nous trouverons l'unité, c'est en nous retrouvant dans sa pensée, et non pas en essayant de suivre la pensée de cet homme ou de l'autre. En Marc chapitre 8, Jésus avait commencé, au verset 31, il a commencé à dire aux disciples, « Mais vous savez que moi, bientôt, je vais me rendre à Jérusalem et là je vais être pris et je vais souffrir et il commence à annoncer sa mort. Et vous vous rappelez quand on était là dans le chapitre 8, eh bien Pierre, le disciple, il dit « Mais Jésus, mais il ne parle pas comme ça !» Il reprend Jésus. Pourquoi ? Parce que ce que Jésus dit ne correspond pas à son idée de Jésus. Et donc il reprend Jésus, il dit « Ne parle pas, ne dis pas cela !» Et ensuite au chapitre 9, au verset 12, Jésus dit, il dit le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être méprisé. Mais les disciples ne saisissent toujours pas. Au chapitre 9, versets 30 et 31, eh bien, Jésus s'éloigne de la foule. Il rassemble ses disciples et il commence à leur parler de la croix. Il les prépare pour cette croix. Il les prépare pour le fait qu'il va être rejeté, il va mourir. Mais les disciples ne saisissent toujours pas. Et ils ne comprennent pas et ils craignent de l'interroger, donc ils ne posent pas de questions. Et alors on arrive encore ici au chapitre 10, et au verset 32 à 34, Jésus encore une fois, et ici de manière encore, il donne encore plus de détails qu'avant. Regardez tout ce qu'il dit aux disciples. Au verset 32, il dit, « Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire de ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Là, on ne peut pas être plus clair. De ce qui se passe à la semaine de la Passion, on ne peut pas être plus clair. Jésus leur raconte tout. Et ils sont là. Et pourtant, on arrive au passage que nous avons lu tout à l'heure. Il vient de dire tout cela. Il est en train de parler de sa mort. Vous savez, ça ne doit pas être facile de parler de sa mort et dire « Voilà, et voilà ce qui va m'arriver. Je vais être torturé, je vais être... Et puis finalement, je vais mourir suite au traitement. » Et là, vous voyez deux disciples, Jean et Jacques, pas des derniers, des disciples qui sont très proches du Seigneur. À chaque fois qu'il n'y avait que 3, ces deux étaient là. C'était toujours Pierre, Jean et Jacques, le trio. Donc c'était deux des bien connus. Ils viennent à Jésus et regardez ce qu'ils disent. Ils lui font une prière. Ils disent, Jésus, écoute, je vais le lire exactement, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Des disciples qui viennent à Jésus, et en plus ils disent, maître, ils viennent à Jésus, et ils disent, maître, c'est-à-dire, quand on dit maître, ça veut dire, moi je suis le disciple. Ils disent, maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. N'est-ce pas osé? Mais vous savez combien de gens aujourd'hui, dans leur prière, disent Seigneur, et puis ils disent à Dieu ce qu'ils veulent. Voilà, je veux que tu me fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses comme ça, et que tu arranges les choses de cette manière-là. On ne peut pas, on n'est pas en mesure de pouvoir jeter des pierres à ses disciples. Et en plus, il nous dit, au Matthieu chapitre 20 et verset 20, ils nous disent que, en fait, ils sont venus avec leur mère. Et c'est la mère, la première, qui adresse la parole et dit, Jésus, je voudrais que tu fasses pour mes deux fils, je voudrais qu'il y en ait un qui soit à la droite et l'autre à gauche, quand tu seras dans la gloire. Et vous savez, c'est encore aujourd'hui, on trouve des gens qui appellent Jésus Seigneur, mais en même temps qui passent par le biais d'intercesseurs. Soit des intercesseurs qu'on appelle des saints, ou bien qu'on appelle, ou parfois même la mère de Jésus, la Vierge. On vient au nom de la Vierge, on passe par quelqu'un pour lui demander quelque chose. Mais si tu l'appelles Seigneur, c'est qu'il est Seigneur, tu peux lui parler directement. Et surtout que Jésus-Christ, ça se voit dans son ministère sur terre, qu'il était à la disposition des gens, n'importe qui pouvait l'approcher. N'importe qui pouvait venir le toucher, n'importe qui pouvait lui demander quelque chose. On n'a pas, dans tout son ministère, personne n'est passé par quelqu'un d'autre, à moins de ne pas pouvoir se déplacer. Mais là, eh bien, eux, pour vraiment avoir, pour être sûr d'obtenir, parce qu'ils y tiennent, ils sont venus avec maman. Et c'est maman qui vient, et puis il dit, il ne va pas refuser à maman. Par respect pour notre mère, qui pourrait être sa mère à lui, eh bien, il va la respecter. Vous savez, on essaye de mettre Dieu sous pression. On essaye de le coincer. Vous savez, si nous l'appelons maître, si nous l'appelons Seigneur, eh bien, c'est à nous d'être disposés à faire sa volonté. Et puis regardez, je répète encore une fois comment ils formulent leur demande. Ils disent, maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Vous savez, combien de gens s'adressent dans les prières et disent, Dieu, je voudrais que tu fasses ça. Et puis au nom de Jésus, et au nom de Jésus, comme si on, quand on met au nom de Jésus, tout ce qu'on veut passe. Et on essaye de faire du chantage, de manipuler Dieu, on essaye de le presser. Il ne peut pas refuser parce que j'ai dit au nom de Dieu et au nom du sang de Christ. Et puis on ajoute des choses pour essayer de forcer la main de Dieu. Ça, ce n'est pas le comportement de disciples. Ce n'est pas le comportement de ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur, en plus de Sauveur. Qui est le maître et qui est le serviteur? Il faut que ça soit clair. On ne peut pas dire une chose avec les paroles et puis nous comporter selon le contraire. C'est ce que font ces disciples-là, ces deux disciples, pourtant des disciples que l'on respecte. Et puis, vous avez, si vous avez remarqué que dans Matthieu chapitre 20, il nous dit que quand la mère, quand Jean et Jacques sont venus avec leur maman, elle est venue, elle s'est prosternée devant lui. Elle a tout fait pour que ça marche. Elle s'est prosternée devant lui, puis elle demande, et Jésus qui est dans l'embarras devant une maman qui plaide pour ses enfants, vous savez, c'est difficile quand on se trouve dans une situation, une maman qui demande quelque chose pour ses enfants, c'est difficile de refuser, c'est une pression terrible. Mais la question c'est qu'il pose cette question sans penser aux autres ni à la volonté de Dieu. Là, il n'y a pas question de Dieu, si tu le veux, Jésus, si c'est vraiment ça rentre, si ça cadre dans ton plan, rien du tout. Voilà ce que je veux. Des prières centrées sur soi-même. C'est des prières égocentriques. Voilà ce que je veux. Je ne sais pas ce que ça a fait pour les autres, mais voilà ce que je veux. Je pense que quand on a prévu un pique-nique et on demande pour le soleil, et puis là, il y a un agriculteur à côté qui lui, veut de la pluie pour sa récolte. Bon, ça, c'est autre chose. Mais quand on demande et on insiste sur ce que je veux, eh bien, là, nous sommes en train de faire exactement ce que font ses disciples. Et puis, en fait, ces deux ne sont pas meilleurs que les autres, parce que quand les 10 autres apprennent que Jean et Jacques ont fait cette demande, ils sont indignés. Alors, vous avez essayé d'arriver avant nous et de prendre les bonnes places avant nous. Et ils sont fâchés, vous savez. C'est le comportement humain qu'on voit toujours. Les disciples, c'était des gens comme nous. C'est ce qui me rassure que ce soit des gens comme nous, parce que ça me donne de l'espérance. Si Jésus a pu prendre des gens comme moi pour en faire quelque chose, alors il peut faire quelque chose de ma vie aussi. Mais vous voyez cette situation, et voyez comment Jésus le prend. Il aurait pu être offensé, il aurait dit, mais pour qui vous prenez? Vous rendez compte? Jésus est plein de grâce. Jésus est extraordinaire. Il dit, nous voudrions que tu fasses ce que nous te demandons. Lui qui sait tout, qui sait déjà ce qu'il pense, il va dire, qu'est-ce que vous voulez? Il suit. Vous savez, heureusement que chaque fois que nous disons des bêtises dans nos prières, on ne reçoit pas une gifle céleste. Parce que je crois qu'on en dit souvent des bêtises et qu'on n'est vraiment pas respectueux souvent dans nos prières. Et là, Jésus, il marche avec. Vous savez, Jésus est en train de penser à la croix, à la souffrance, à ce qu'il va endurer. Il est là dans... Mais il y a l'angoisse qui est en train de pénétrer. Vous savez que chapitre 10, comme par hasard, ça vient juste avant le chapitre 11. Mais si vous regardez chapitre 11 commence la semaine de la Passion. C'est la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est juste avant la croix. Et Jésus est en train de penser à cette croix. Jésus est en train de penser à cette souffrance. Et quelqu'un arrive et dit, tu veux pas, dans le royaume, tu veux pas nous donner... C'est un peu... C'est un peu, je crois qu'on dit en français, le cheveu sur la soupe. C'est un peu, ce serait équivalent de celui qui vient, qui trouve son ami, qui vient d'être cambriolé, et il dit, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Non, mais quand il vient d'être cambriolé, il est en train de penser à autre chose, et puis toi, tu es en train de venir encore, tu veux demander quelque chose pour toi-même. Tu tiens pas du tout compte de ce que lui est en train de vivre et tu demandes quelque chose pour toi-même. Mais vous savez, Jésus, eh bien, il est quand même plein de grâce parce que son amour pour nous est immense. Hein. Vous avez vu comment Jésus répond au verset 38. Il dit, Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Il dit, mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de nous demander? Normalement, je pense que ça aurait suffi pour dire, ah, excuse-nous, on ne s'est pas rendu compte. Rien qu'ils disent, mais vous savez que vous demandez quelque chose de vraiment mal placé. Et non, eux, pas du tout. Ils vont droit de l'avant. Il dit, et Jésus ajoute, il dit, mais pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Là, c'est deux images différentes. La coupe représente toujours la colère de Dieu et le baptême, c'est d'être immergé dans sa... Et il parle de sa souffrance. Et il dit, vous croyez que vous pourrez souffrir ce que je vais souffrir? Parce que, et dans un sens, Jésus est en train de dire, vous savez que la souffrance précède toujours la gloire. La douleur précède la gloire. Tout à l'heure, on a chanté le cantique « Debout, Sainte Cohorte » et la quatrième strophe, elle termine la croix avant la gloire ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça la vérité. Jésus dit, et c'était le principe pour Jésus, c'est que d'abord la souffrance, ensuite la gloire. Eux, ils voulaient passer par-dessus la souffrance et aller directement à la gloire. Il dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et ses disciples, sans même poser la question de ce que ça pouvait représenter, quelle est cette coupe, quelle est cette souffrance dont ils parlent, ils disent, nous le pouvons. Ouais, pas de problème. Peu importe, nous on y va. Vous savez, c'est des paroles aussi vides que celles de Pierre, par ailleurs, qui a dit, Seigneur, si tous sont scandalisés par toi, si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Même si les autres disciples, moi, je resterai fidèle. Et puis, et finalement, lui, c'était le premier à renier le Seigneur. Vous savez, parfois, et peut-être on a fait des promesses à Dieu, on dit, Dieu, écoute, moi, tu peux compter sur moi. Hein, dans ce monde, ceci, cela, tu peux compter sur moi. Dieu, si tu me... Et on a fait des promesses à Dieu. Dis, Dieu, si tu me sors de cette situation-là, après ça, j'irai toujours à l'église, je ferai ceci. Et puis... Hein, heureusement qu'il ne tue pas tous ceux qui ne gardent pas leurs promesses, parce qu'il y aurait beaucoup de chrétiens morts. Et Jésus... dit, faisons attention. Il dit, il est gracieux avec eux, mais il n'approuve pas. Hein. Il dira, oui, vous boirez la coupe, vous serez, parce que bon, il sait quelle persécution ils vont vivre, et puis les deux là vont mourir en martyrs. Il sait qu'ils seront persécutés, mais ils participeront aux souffrances de Christ. Mais ils vont pas vivre la souffrance de Christ, parce que Jésus sur la croix a souffert l'abandon du Père. Eux ne seront jamais abandonnés. Quelle que soit leur souffrance dans la persécution, Christ sera toujours avec eux. Tandis que Jésus sur la croix, il portera le péché du monde et en plus, il dira, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ces disciples, ils ne savaient pas de quoi ils parlent et c'est comme le petit gamin comme ça qui dit à son père, papa, écoute, si t'arrives... Non, il dit à maman. Ça arrive, le petit, il dit à maman, je te défendrai, hein, pas peur. Bon, elle fait un sourire, elle dit, oui, je compte sur toi. Mais en fait, dedans, elle sait qu'il ne peut rien faire. Et souvent, nous aussi, on promet des choses à Dieu, et il dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous faites des promesses? Vous savez, nous devons prendre la prière plus sérieusement. Hein, pas dire n'importe quoi qui passe par la tête. Mais une prière, c'est sérieux. D'abord, on se souvient à qui on parle, et puis on se souvient de qui il est, et que lui aussi, il a une volonté. Volonté. Il n'est pas seulement... Euh, un serviteur là qui attend de, qui est puissant et qui est là pour nous servir. Hein, c'est, on a les êtres humains, ils aiment bien les génies là qui il suffit de frotter la lampe et puis on demande et puis on l'obtient. Ça, c'est, l'être humain, il dit, mais c'est l'irréel ça. Alors, Dieu n'est pas celui que comme ça on lui fait une prière et puis si on la formule bien, et bien on obtient ce qu'on veut. C'est pas ça hein, la vie. C'est une relation. Hein. C'est pas juste puiser dans un pouvoir, mais c'est une relation qu'on entretient avec Dieu. Alors comment faut-il prier ? Eh bien, dans Jean chapitre 11, Jésus dit au Père, il dit, je sais que tu me donnes tout ce que je demande. Peu importe ce que je te demanderai, tu me le donnes. Mais, quand Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémané, comment est-ce qu'il prie ? Il dit, Abba, Père. Hein, c'est dans Marc 14, verset 36. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si Jésus, qui peut demander, il a dit, tu peux tout faire, tu ne me refuserais rien. Et j'aimerais bien pouvoir éviter cette souffrance, la croix. Mais il dit, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si Jésus prie de cette manière-là, combien plus nous devons prier de cette manière-là ? Et chaque fois que nous formulons quelque chose, c'est pas, Seigneur, fais ce que nous allons te demander, mais plutôt, voilà ce que nous aimerions, mais fais ce que tu veux. Hein, que ta volonté se fasse dans ma vie. Et que ton plan se réalise, et que ta gloire en découle. Hein, c'est ainsi que nous devons prier, avec cette attitude-là. C'est comme ça que Jésus a dit, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Luc 6, 46. Il dit, ceux qui m'appellent Seigneur et qui ne font pas ce que je dis, il dit, c'est comme ceux qui bâtissent une maison sur le sable. Ils entendent la parole, ils disent des belles choses, mais ils n'obéissent pas à cette parole. Jean, qui là formule très mal sa prière et qui demande une chose qu'il ne devrait jamais demander, eh bien, par la suite, dans sa lettre, donc dans 1 Jean, eh bien, il va faire une correction. Il va faire une correction. Et dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, Jean écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà, Jean a enfin compris. Ça lui a pris du temps. C'est Jean le vieillard qui écrit. Mais il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ce qui importe, ce n'est pas ce que je veux, ce qui importe, c'est si il le veut. Maintenant, quand ce que je veux et ce que lui veut correspondent, alors on est sûr de l'avoir. Je sais qu'en grandissant avec mon père, il y a des gens qui l'ont connu, mon père, on l'influençait pas. Il y avait certaines choses, je savais que c'est même pas la peine de lui demander. Je le connaissais. Et c'était pas, il n'y avait pas en l'attrapant le bonjour, rien du tout, il n'y a pas, après le repas, ça changeait rien du tout. Papa, c'était comme ça. Et il y avait certaines choses, hein, on me disait, les copains, ils disaient, va demander à ton père si. Je lui dis, c'est pas la peine, il dira non. Il dit, va voir peut-être. Non, il dira non. Moi, je savais, parce que mon père, c'est comme ça. C'est pas parce qu'il ne m'aime pas, c'est parce que il a un plan pour ma vie. Et donc, avec Dieu, c'est encore la même chose. Si c'est ce que lui veut, et si lui est le Père, et moi je suis l'enfant, hein, et puis il nous a été rappelé tout à l'heure que si il nous donne le pouvoir, si nous croyons, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. S'il est le Maître et nous sommes les disciples, ben c'est à nous de suivre sa parole. Mais il dit, mais si nous suivons sa parole, il nous donnera tout ce dont nous voulons. Alors, le problème, d'où vient le problème? Pourquoi est-ce que les disciples pensent de cette manière? Eh bien, comme je disais tout au début, eh bien, eux, ils ont déjà leurs idées préconçues, ce que Jésus va faire, et ce qu'il va accomplir, et qui il est, et donc eux vont se servir de cela. Et c'est un problème récurrent. Eux, dans leur cœur, ils ont envie de régner. Ils veulent régner, ils veulent dominer. Bon, c'est très caractéristique de l'homme naturel. On le voit depuis les petits. Hein. Ceux qui ont 3 ans, ils veulent dominer sur ceux qui ont 2 ans. On le voit à l'école maternelle. On le voit à l'école primaire. Il y en a toujours certains qui dominent sur les autres. On le voit au lycée. On le voit chez les adultes. Et puis on le voit dans toutes les nations. C'est un problème de l'être humain, mais de vouloir dominer. Et donc, ces disciples, eh bien, ils se disent, on arrive les premiers, on prend les bonnes places, et après, on pourra régner. Et tout ce que Jésus pouvait leur dire par rapport à ses souffrances, eux, certainement, ils ont pris ça, ils ont dit, là, c'est des paraboles, il ne faut pas prendre ça littéralement, je vais mourir, je vais ressusciter. C'est certainement des paraboles pour dire que ceci, cela. Non, 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 on sait ce qu'il veut dire, on sait où il veut aller, il ne va pas créer de la confusion, il va régner, il va avoir le royaume, et nous voulons les bonnes places. Et ils interprétaient tout en fonction de leurs idées. Nous devons faire attention, hein, lorsqu'on approche de Dieu, c'est de ne pas... Parce que là, ils étaient complètement à côté. Combien de fois avons-nous mal interprété une promesse de la Bible et nous avons été déçus parce que Dieu n'a pas gardé? Mais il a dit, c'est pas ça que je t'ai promis. Hein, ça nous arrive dans la vie de tous les jours, entre nous. Hein. Des fois, on dit quelque chose, là, hein, il comprend d'une manière, et après il est déçu parce qu'on ne l'a pas. Il dit, mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi, même avec ma femme et moi, on est mariés depuis près de 40 ans, mais parfois... Non, non, c'est pas ça exactement ce que je voulais dire. Hein, donc, mais nous devons faire très attention, parce qu'après, quand on comprend mal, on s'attend à quelque chose, et après on est déçu. Et combien de gens disent qu'ils sont déçus avec Dieu, mais finalement ils ont mal compris ce que Dieu voulait. Jésus est en train de leur dire, il dit, au verset 42, il dit, vous savez que chez les hommes, c'est les grands qui dominent sur les petits. Les forts dominent sur les faibles. Les riches dominent sur les pauvres. L'intellectuel domine sur l'illettré. Il a dit, c'est comme ça dans la vie. Mais il ajoute, et c'est ça que je trouve extraordinaire, il dit, mais chez nous, c'est pas comme ça. Hein. Il dit... Il n'en est pas ainsi au milieu de vous, verset 43. Il n'en est pas ainsi au milieu de vous. Il a dit, mais c'est comme ça dans les nations, mais ce n'est pas comme ça chez nous. Hein? Et il a dit, c'est pas comme ça que les choses se font. Et il va donner l'exemple. Il va dire, en fait, la règle, elle est différente. Il dit, dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien... C'est le serviteur, hein, ce qui est considéré comme grand. Celui qui sert, celui qui est à la disposition des uns, celui qui est toujours en train de vouloir, cherche le bien de l'autre. Il dit, c'est celui-là qui est le grand aux yeux de Dieu. Et la grandeur, dira Jésus, la grandeur s'obtient par le service. Il dira au verset 43 et 44, il dit, « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Et ça, si on n'a pas le cœur qui aime, eh bien, on se lasse très vite de servir les autres, si on ne les aime pas. Hein, c'est parce qu'ils ne vont pas toujours se comporter de manière à m'encourager. Ils ne vont pas toujours être faciles à servir. Mais si je sers, c'est par amour. Je pense souvent aux mamans, hein, on en a quelques-unes ici, mais je suis étonné comment les mamans, pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, elles servent leurs enfants. Et les enfants ne sont pas toujours reconnaissants, ils ne disent pas toujours des choses gentilles, ils ne répondent pas toujours bien et tout. Et la maman, elle continue à servir. Pourquoi ? Pas parce que les enfants la traitent toujours bien ou parce qu'ils disent toujours merci, mais parce qu'elle aime. L'amour fait toute la différence. Et en fait, si nous voulons pouvoir servir les autres, il faut commencer par les aimer. Et une première manière de les aimer, c'est déjà prier pour eux, de les encourager, d'être toujours vigilant pour voir comment on peut rendre service. Et ça, c'est dans le régime de Dieu, de Jésus. Hein. Dans le monde, c'est autre chose. Hein. Dans le monde où ils appellent l'amour une faiblesse. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, l'amour est une force. Quand ils ont voulu décrire Élisée, une qualité d'Élisée, il fait référence à Élisée dans 1 roi chapitre 3 et verset 11, il dit c'est celui qui versait l'eau sur les mains de Élie. C'est celui qui était le serviteur d'Élie. Ils auraient pu dire mais c'est celui qui a fait des grands miracles, c'est celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Quand les gens pensent à moi dans l'église, est-ce qu'ils pensent à c'est celui que bon, il faut toujours faire comme il veut parce qu'il insiste, sinon il fait un scandale, alors on marche avec lui, ou est-ce que c'est lui, tu peux toujours compter sur lui pour t'aider, si tu vas le voir il fera ce qu'il peut pour t'aider. C'est autre chose. Comment est-ce que nous sommes connus? Et Jésus donne l'exemple, là au verset 45, il dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Et en plus, Jésus qui pourrait dire « Je », il parle à la troisième personne. Encore une fois, l'humilité. Alors que lui est le maître. Et pourtant, avec humilité, il dit « Le Fils de l'homme », comme si c'était d'une autre personne. Il dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cette deuxième partie, on la traitera la prochaine fois, on donnera sa vie en rançon pour beaucoup. Mais Jésus est là. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 52, verset 13, eh bien, il parle de Jésus, le serviteur de Dieu, le serviteur, qui est venu pour donner sa vie. Il nous dit, Ésaïe 53, verset 5, il dit, donner sa vie, c'est nos péchés qu'il a portés. Hein? Et Paul reconnaît, et je vais vous demander de regarder dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, où l'apôtre Paul décrit justement cette attitude de Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 2, au verset 5, il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Hein, » Il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il dit « Vous voulez l'attitude d'un disciple, c'est d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » C'est-à-dire que ce n'est pas une chose à garder à tout prix, à retenir à tout prix. Il avait la gloire de Dieu, il était dans la gloire de Dieu, il était Dieu, et il était disposé à laisser, mettre ça de côté, et il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme de serviteur. Et devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Lui, qui avait toute la gloire de Dieu, qui avait toute la puissance de Dieu, qui avait les mêmes attributs de Dieu en toutes choses, il a mis cela de côté. Il s'est dépouillé, ou il s'est vidé de beaucoup de choses, afin de devenir un serviteur, de devenir un homme comme nous. Et il nous dit, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, c'est pas encore, il aurait pu être, pour lui, c'était déjà une humiliation s'il était devenu l'homme le plus glorieux des hommes. Ça aurait été moins que Dieu. Mais il est le plus vil des hommes. Il a été compté parmi les brigands. Il est mort sur la croix. Mais regardez ce verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, oui, glorifié. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait la souffrance d'abord. Jésus a dit, il a dit aux disciples, il a dit, d'abord la coupe ou le baptême de la souffrance, hein, il fait référence à sa souffrance, il dit d'abord la souffrance, ensuite la gloire. Il dit, c'est comme ça pour moi, c'est comme ça pour vous. Et la gloire, eh bien on l'attend, hein, la gloire céleste, la gloire c'est pas pour ici sur terre. Ici, c'est la vie du serviteur. Et tant que nous sommes en tant que disciples de Jésus-Christ sur terre, nous sommes des serviteurs. Nous sommes là, et pas pour servir les hommes, pour servir Dieu auprès des hommes. Parce qu'il y a autre chose. Hein, serviteur des hommes, c'est ingrat. Servir Dieu auprès des hommes, c'est un privilège. Et dans l'esprit, il dit, vous voulez être grand ? Eh bien, devenez le serviteur de tous pour Dieu. Jésus est l'exemple lui-même. Il a dit, moi, eh bien, je suis venu pour servir. Et vous savez que en moins d'une semaine après cela, eh bien, il lavera les pieds de ses disciples. Hein, donc, il est vraiment le serviteur. Et nous devons faire très attention avec notre manière de notre comportement vis-à-vis de Dieu. Notre comportement. Et ça ressort, et c'est ça. Là, je reviens à la question, qui est Jésus pour moi ? Est-il mon assistant social ? Hein, chaque fois que j'ai des problèmes, je vais le voir. Ou est-ce qu'il est mon Seigneur, mon Sauveur ? Et d'abord, est-ce qu'il est celui qui est mort sur la croix pour mes péchés ? Il est venu pour me servir. Il a donné sa vie en rançon pour moi. Ou est-ce que c'est... Il est là, et quand j'ai besoin de lui, hein, c'est ça que je disais à mon dentiste, pour essayer d'entamer la conversation vis-à-vis de choses spirituelles, je dis, vous savez, je pense à vous comme beaucoup de gens pensent à Dieu. Je pense à vous quand j'ai mal aux dents. Bon, il a pas relevé la chose, mais vous savez, qui est Dieu ? Qui est Jésus pour moi ? Et ça va changer mon comportement. Mais si je vois que lui, finalement, il est là pour me... Il est Seigneur, mais il veut me servir, eh bien, moi, je dois dire, mais il est Seigneur, je veux le servir aussi. Et ça change toute mon attitude vis-à-vis de lui. Alors que le Seigneur nous aide à avoir ce bon comportement, et grâce au mauvais exemple de Jean et Jacques, eh bien, nous pouvons tirer des bonnes leçons pour nous-mêmes et dans notre comportement. Et toujours, la première manière de venir à Jésus ou de revenir à Jésus, c'est dire « Seigneur, tu es Seigneur et je veux que tu me pardonnes et je veux être à toi, je veux que, te servir, je veux m'aligner sur toi ». Tu es mon modèle, tu es mon Seigneur, tu es mon tout. Et voilà le comportement que nous devons avoir. Nous allons prier.